On a avec nous le tout premier directeur général de l'Impact de Montréal. C'est avec lui que l'Impact de Montréal ont gagné le championnat en 1994. Pino Azzurro, bonjour. Salut Pino.
Bonjour Tony, bonjour tout le monde.
Pino, j'espère que tu vas bien. Raconte-nous ça parce que hier était le 32e anniversaire de la naissance de l'Impact de Montréal. Il y en a quelques-uns qui savent déjà l'histoire, comment l'Impact est né, mais toi, tu sais tous les détails, puis je suis sûr et certain que tu vas nous faire apprendre beaucoup à matin. Donc, raconte-nous ça.
J'espère qu'on va avoir assez de temps pour ça.
T'as environ 18 à 20 minutes. Vas-y, Pino. Je sais que... Parce qu'on est des amis depuis longtemps, puis je sais que tu aimes parler, donc... Pour moi, c'est fantastique. Tu vas être en mesure de parler pendant 18 minutes, puis moi, je vais collecter ma chèque de paye. C'est fantastique.
Parce que moi aussi, j'étais l'autre côté de la conversation, parce que moi aussi, je fais de la radio, donc c'est des fois difficile de m'arrêter. De toute façon, on va essayer d'être synthétique et au point. Bref, disons que j'avais eu le plaisir d'être nommé directeur général de la Supra de Montréal l'année 1992. Mm-hmm. Dans ces périodes-là, la Ligue canadienne de soccer passait à travers une période, disons, peut-être une de ses pires périodes. Il y avait des problèmes financiers avec la plupart des équipes, etc., etc. Donc, à la fin de la saison 1992, les Vancouver 86ers,
oui,
ont pris la bonne décision d'adhérer au circuit nord-américain, l'American Professional Soccer League.
Le fameux APSL,
Il faut dire et souligner que les 86ers de Vancouver étaient notre équipe élite. Quand je dis ça, c'était la raison pour ça, c'était qu'ils formaient une formation, disons, élite. 9 de leurs joueurs partants, 11 du 11 partants, faisaient partie de l'équipe nationale du Canada. Donc, ça, c'est pour mettre, disons, un petit peu en perspective l'importance de la perte de cette équipe-là dans le circuit canadien. Donc, suite à ça, disons, il y a eu comme une réaction un petit peu boule de neige. Il faut aussi se rappeler que le président du Supra, M. Frank Aliaga, les propriétaires qui demeuraient en Floride, qui avaient des affaires aussi, il y avait une famille ici à Montréal, et c'est la raison pour pourquoi qu'il avait décidé d'acheter le Supra à quelques années auparavant. Lui était aussi le commissaire de la Ligue canadienne, acting commissioner, parce que la Ligue n'avait pas les moyens d'avoir un commissaire ou de garder le commissaire qui avait été congédié au début de la saison 92. Tout ça pour dire que la Ligue était en difficulté financière. Mm-hmm. Donc, avec la perte de Vancouver, c'était un fait accompli que la Ligue canadienne était arrivée au bout de son histoire, malgré tout. Donc, le propriétaire du Supra, les commissaires, acting commissioner, M. Aliaga, m'a mandaté pour explorer qu'est-ce que financièrement, ça prenait pour se joindre aussi à l'American Professional Soccer League comme Vancouver avait déjà fait. Alors, sans trop, disons, tarder, j'ai préparé une plan d'affaires. Je me suis mis en contact avec le commissaire de la PSL, M. Bill Sage. J'ai présenté le plan d'affaires et je suis revenu avec toutes les données que le nouveau circuit américain aux Nord-Américains demandaient en tant qu'engagement financier. Quand je présentais les chiffres à M. Aliaga, un monsieur qui était très confortable, on dirait riche, mais ça, pas super riche, il a dit non, Pino, je ne suis pas intéressé, je suis confortable, mais je ne suis pas prêt à investir toutes ces sommes-là. Donc, à ce point-là, la Ligue était disons, à toute fin pratique, avaient arrêté ces, disons, pas officiellement encore, mais la Ligue avait vu ces derniers jours. Une couple de semaines après que j'avais communiqué à M. Bill Sage que Montréal n'était pas intéressé, après une couple de semaines, il m'est revenu pour disons, m'annoncer, disons, on dirait son intérêt d'avoir un club à Montréal. Et il a dit, Pino, tu as préparé un plan d'affaires tellement bien fait. Essaye de voir s'il y a un compagnie à Montréal, quelqu'un qui pourrait financer l'équipe pour que Montréal soit dans, disons, soit dans le circuit pour 1993. Alors, la première chose que je fais, j'ai placé un appel à Joey Saputo que, en passant, le groupe Saputo était un de nos commanditaires majeurs, uh-huh. avec Utamar, avec Molson O'Keefe et avec Bell Mobilité. J'ai rencontré Joey à midi, on a lunché ensemble, j'ai présenté, disons, le projet, et lui s'est montré tout de suite intéressé. Et puis il m'a dit, est-ce que tu es prêt à présenter ça à mon père, Michelino Saputo? J'ai dit, je suis vendeur de, disons, professionnel. Alors j'ai dit, anytime, appelle-moi quand vous êtes prêt, je suis là. Et c'est ce que s'est produit dans les deux ou trois semaines qui ont suivi la rencontre.
Excuse-moi, Pino, entre-temps, est-ce que tu attendais la réponse des Saputo pour te revenir, pour évidemment avoir un rendez-vous pour faire la présentation? Est-ce que tu es allé voir d'autres commanditaires pour voir s'ils étaient intéressés?
Absolument pas, non.
OK.
Non, j'avais déjà... disons que je connais la famille Saputo depuis longue date. Et moi, je me suis dit, si c'est pas la famille Saputo qui va... prendre le projet en main.
Personne ne va le faire.
Pour moi, c'est fini. Disons, Montréal n'aura pas un autre club professionnel. Je ne voyais pas d'autres opportunités dans le moment. Il faut dire que peut-être plus tard, quelqu'un aura pu peut-être montrer un intérêt. Mais dans le moment, c'était. Il faut se rappeler que le timing était très, très, très... l'échéancier était très, très restreinte. On n'avait pas grand temps pour être prêt à répartir tout de suite l'année d'après. Uh-huh. Donc, non. Il y avait la famille Saputo ou rien. C'est ça, pour répondre à ta question.
Donc, Pino, ils te reviennent, puis ils disent, OK, on va se rencontrer. La rencontre a eu lieu où?
Oui, j'ai eu un appel.
Où,
j'ai eu un appel
puis avec
de Joey,
qui? Oui.
En me demandant si j'étais prête à rencontrer son père, et puis chose que j'ai faite, je dirais que j'ai fait la vente de ma vie.
Ouais.
Il y avait Lino Junior aussi présent, il y avait Joey évidemment, il y avait Camilo Lisio, le bras droit de Monsieur Saputo, et bref, c'est une rencontre qui a duré peut-être une heure dans son bureau, je suis sorti de là avec un excellent feeling que ça aurait pu marcher. Suite aux questions qu'il me posait, etc., suite à ma présentation. Et il faut pas oublier que la présentation que j'ai faite était basée sur le futur du soccer en Amérique du Nord grâce à la Coupe du Monde de 1994. Alors, tout mon plan d'affaires était basé là-dessus. Mmh. Et ils ont vu sûrement un futur dans le soccer. On les voit aujourd'hui.
Pinos, juste si je peux, pour le bénéfice de tout le monde qui nous écoute, nous regarde, la Coupe du Monde 94 qui a eu lieu aux États-Unis. Oui, continue.
Aux États-Unis,
oui.
Exactement. Bravo, Tony. Tu as bien fait de le souligner. Et c'est ça. Alors, la soirée est terminée sans aucune décision. Et ils m'ont dit qu'il était pour me revenir avec une décision quelques jours après. Une autre semaine a passé, peut-être deux, ils m'ont invité à une deuxième rencontre parce qu'ils voulaient avoir d'autres informations, d'autres renseignements qui manquaient peut-être pour avoir ou prendre la décision finale. Ça s'est produit un autre jeudi soir, exactement deux semaines après. Et Monsieur Lino Saputo, après, à la fin de la réunion, il a serré ma main et il a dit, Pino, je te donne pas ma réponse ce soir, par respect à la famille, parce que dans le temps, le groupe Saputo est encore, disons, une compagnie privée qui appartenait à la famille. Il n'était pas une corporation publique comme le groupe est aujourd'hui. Donc, il dit, on a rassemblé la famille demain matin en réunion à 10 heures et Joey va te rappeler avec notre décision. Ce qu'il a fait à 10h30, il m'a appelé, il m'a dit, Pino, we're in, and that's it. Et puis après ça, disons, on a mis en marche la machine. Et la conférence de presse qui s'est tenue au centre Sheraton, au centre-ville.
Un instant, Pino, à quel moment ils t'ont dit que tu es notre directeur général?
Disons que ça s'est fait de façon quasiment banale. Parce que moi, je m'attendais tout le temps à comment on peut dire, une confirmation, you're my man. Non, ça s'est fait comme si j'étais un membre de la famille et ils m'ont comme, je faisais partie du groupe et c'était quelques rencontres après ils m'ont officiellement nommé directeur général.
Pinon, j'ai déjà vu une photo dans le passé de la fameuse conférence de presse qui annonçait la naissance de l'Impact de Montréal et de l'entrée dans la APSL. C'était où, cette conférence de presse? Qui était là? Puis est-ce que tu t'en souviens combien de personnes étaient dans la salle? Combien de membres des médias? Combien de personnes?
C'était une salle comble. Il y avait Jean Doré, notre mère regrettée dans le temps. Il y avait Bill Sage, évidemment, le commissaire, M. Lino Saputo, Joey, moi-même, beaucoup de représentants du groupe Saputo. Mais tous les médias, je dirais, tous les médias étaient là.
C'était où,
Régent Tremblay était la presse, qui ne suivait pas le soccer, il n'a jamais écrit un mot sur les Supras, il était là. Michael Farber, de la Gazette Sports Illustrated, était là. J'en nomme deux, les noms que je mets, mais tout le monde, tous les médias étaient là, deux ou trois. C'était une nouvelle, disons, qui a fait vraiment les tours de Montréal, parce que c'était une importante annonce qu'on avait, on avait faite, que Montréal avait, non seulement on avait gardé le soccer professionnel à Montréal, mais là on faisait partie d'un circuit professionnel qui, on ne peut pas le comparer à l'MLS d'aujourd'hui, mais on dirait que c'était un petit peu un petit cloche en dessous de l'MLS d'aujourd'hui. Écoute, on n'avait pas les moyens que l'MLS a aujourd'hui,
ouais.
Mais on était le seul circuit professionnel en Amérique du Nord. Donc, était, on dirait, la première étape pour que l'Amérique du Nord, ou les, ouais, États-Unis et le Canada puisse être reconnu dans le, disons, au niveau mondial, d'avoir une ligue professionnelle en tant que telle.
Mais Pino, c'était où cette conférence de presse-là?
Au centre Sheraton.
Au centre Sheraton. OK, oui, au centre-ville. Au centre-ville. Ouais. OK, c'est quelque chose. Et donc, tu entames ta première saison, ton entraîneur-chef, tu l'annonces, Eddie Fermani. Oui. Ça, c'est venu, oui, combien de temps après l'annonce de la naissance de l'Impact de Montréal?
Disons, on dirait vers le fin janvier, début février, à l'hôtel à Vaudreuil.
Château Vaudreuil,
bravo.
OK, bravo. Donc à Château Vaudreuil...
Je commence à vieillir, Tony.
Non, moi aussi. Donc au château, tu parais bien, puis non, inquiète-toi pas. Donc
Château Vaudreuil, on a annoncé, ces journées-là, on a annoncé les couleurs, on a annoncé le logo de l'Impact et on a annoncé la venue de notre nouvel entraîneur, M. Eddie Fermani.
Et qui a choisi le nom, l'Impact?
Alors, l'Impact a été, disons, choisi, ça c'est une question très intéressante, a été choisie par, disons, on dirait un effort de famille et d'équipe. Je me souviens d'avoir eu 3 ou 4 rencontres dans la grande salle de conférence dans l'édifice de Saputo, un grand thème qui a pu, disons, accommoder au moins 20 personnes. Puis c'est un grand table ronde, une table ronde, oui. Et il y avait la mère de Joey, Mirella, il y avait la sœur de Joey, Nadia, il y avait des membres de la famille. Parce que tout le monde tenait beaucoup à ces nouveaux projets du groupe Saputo, parce qu'il faut pas, disons, dans le temps, le groupe Saputo était reconnu beaucoup pour ses excellents produits, mais c'était la première fois qu'il s'impliquait de façon, on dirait, majeure dans les sports professionnels. Et malgré toutes les sollicitations qu'ils ont reçues durant les années, que ce soit au niveau des courses automobiles, etc., etc., mais ils ont toujours gardé un profil très discret et disons que pour eux, l'impact, c'était une étape très importante. Et le but de tout ça, c'était pour redonner à la communauté. Est-ce qu'ils pensaient que la communauté avait besoin? On avait beaucoup de noms qu'on avait mis sur la table. Je suis très honnête pour admettre que l'impact, c'était pas mon choix, mais je l'ai accepté de bon cœur parce que tout d'abord, on voulait un nom qui était bilingue.
Oui.
On voulait un nom qui avait, disons, un impact et qui avait, disons, comment on peut dire, était le miroir de l'effort que le groupe Saputo avait mis de l'avant.
Oui, c'est quelque chose, ça. Puis, première saison, Eddie Firmani comme entraîneur-chef. Camp d'entraînement en Italie commence à amener des joueurs de renommée. Puis là, en 1994, t'engages Valerio Gazzola comme entraîneur et vous gagnez le championnat au centre Claude Robillard devant presque 9000 personnes sur un but de Gene Harbour. Une victoire de 1-0, si je ne me trompe pas, contre le Colorado Foxes, n'est-ce pas?
C'est exact, Tony.
Et c'est quelque chose. Et j'imagine, et c'est des beaux souvenirs, hein?
Oh, regarde. Là, je suis rendu à 73 ans, puis c'est comme hier. Et j'arrêterai jamais de remercier la famille Saputo, Joey en particulier, qui a toujours cru en moi. Et bref, pour ce qu'ils ont fait pour Montréal, et ce
Oui.
qu'ils continuent à faire.
Pino, et moi, je dois te remercier aussi parce que, écoute, on est des connaissances depuis longue date. Tu es un des premiers amis que mon père a fait quand il est arrivé ici de l'Italie en 1967. Je pense que tu es le meilleur ami de mon père. Il faut dire, c'est pas facile de s'entendre avec mon père, là. Et tu es comme un membre de famille pour moi, comme tu sais. Et c'est toi qui m'as donné mes premières expériences dans un studio de radio. Puis je te remercie pour ça. Puis je te remercie parce que en 1994, quand l'Impact a gagné le championnat, j'ai eu droit à des sièges privilégiés, très, très proches du terrain, gracieuseté de mon ami Pino Azzaro. Donc, Pino, écoute, tu as bien fait de souligner le travail des Saputo, l'engagement de Joey et de sa famille. C'est vraiment grâce à eux autres qu'on a le soccer professionnel à Montréal. Ça, personne pour les enlever. Et aujourd'hui, ils sont dans la MLS. Mais il faut dire dans tout ça que si Pino Azzaro n'aurait pas placé les appels au commissaire comme il a fait, puis je sais que tu as une certaine humilité, tu ne voudrais pas dire, mais si on regarde tous les événements, tous les souvenirs, l'impact de Montréal, puis aujourd'hui, le CF Montréal dans la MLS, c'est vrai que c'est pas possible sans le soutien, l'argent, l'investissement, les efforts de la famille Saputo, mais c'est pas possible si Pino Azzaro place pas les appels, puis il fait pas le pitch de sa vie non plus, là.
Merci, Tony.
Donc, merci,
Merci.
Pinon. Merci et bonne fin de journée, Pinon.
Merci. Et puis, joyeuses fêtes à tous vos écouteurs et écoutrices. Et bref, continue ton excellent travail, Tony. Je te suis tout le temps. Et vraiment, tu mérites tout ce que tu es capable d'aller chercher. Parce que vraiment, je sais comment tu travailles fort depuis que tu étais Tu étais venu au monde depuis que je te connais.
Ouais.
Tu as toujours été un grand sportif et intéressé au sport en général. Et puis, ça, c'est une excellente réflexion rendue aujourd'hui de ton grand talent et de tout ce que tu fais.
Merci beaucoup, Pilon. Joyeuse fête à toi et ta famille
salut,
aussi.
Salut, joyeuse fête à tout le monde.
Un beau bec à ta douce Vicky. Merci. Le voilà. Merci. Pino Azzaro, premier directeur général de l'Impact de Montréal.